20h01 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de la grille. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale. Très content de vous retrouver après j'ai envie de dire 2 semaines d'absence, puisque la semaine dernière nous n'étions pas là, faute de manque d'effectifs. Et oui, voilà, l'effectif était décimé, mais on est bien là, présent donc en ce mardi 30 avril 2024. Et oui, les Jeux Olympiques arrivent à grands pas, notamment aussi l'Euro qui va arriver en juin. Donc on est sur une fin de saison qui est palpitante, et donc on va évoquer tout ça dans cette émission. Je vais présenter dans un premier temps, avant de vous présenter le sommaire de l'émission, ceux qui vont m'accompagner aujourd'hui pour cette heure de sport sur Radio G. À ma gauche, il y a Faustin. Salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex, salut tout le monde, ça va toujours très bien. Mes nuits sont de plus en plus courtes à cause des playoffs.
On se demande pourquoi.
Mais je suis toujours là. Et
attention, il y a le bac quand même, Faustin.
Oh, c'est autre chose. Mais aussi, je vais passer un bonjour à Nicolas et Nathalie de Nouzouville dans les Ardennes qui nous écoutent ce soir.
Ok, voilà. Très bien. Bah, écoute, on leur passe le bonjour. T'as joué un petit peu ce week-end? Ah non, c'est les vacances.
Ouais, c'est les vacances.
Donc repos. Enfin, repos. Du coup, tu te couches tard.
Voilà, il y a des entraînements, mais match ce week-end. Okay. Très important.
Très important, attention. En face de moi, il y a également Mathéo qui nous a rejoint donc il y a quelques semaines et qui est encore là ce soir. Salut Mathéo, comment ça va?
Salut Alex, et bah écoute, ça va très très bien. La forme, ouais. Pas mal de foot en ce moment, c'est la fin de saison, hyper intéressant sur toutes les pelouses de tous les championnats d'Europe, donc je prends plaisir.
Et effectivement, ça se passe bien le service civique à Radio G?
Nickel, tout à l'heure j'ai animé l'émission, donc
parfait, parfait. Voilà. Les auditeurs qui te retrouvent donc
exactement quelques, pour ceux qui sont restés.
C'est ça, quelques minutes après. Cédric est également avec nous, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, je crois. Salut Cédric, comment ça va?
Bah écoute, ça va super bien. Pas c'est... trop le temps, voilà, on se voit.
Ouais, en ce moment
c'est compliqué.
Hein. Ça travaille.
La trêve hivernale. Nous a fait du mal.
Ah là là. Du coup, voilà, comment ça se passe au niveau actu sportif? Comment
bah écoute, on suit un peu les transferts là au hockey, parce que ça commence.
Oui, c'est vrai, il y a pas mal de départs.
Puis partout, c'est ça le truc cette année. Un peu de F1, avec ce week-end, là, on va replonger sur un circuit que j'adore, Miami,
C'est ironique, j'ai l'impression, dans ta voix.
Ouais, non, je suis pas fan de ce circuit-là. Enfin, c'est un circuit qui est construit plus pour le décor que la piste en soi. Je la trouve pas intéressante en termes de course. Mais voilà, quoi.
Mais voilà, tu suis toujours l'actu.
Oui. Puis on va se focaliser surtout sur ce qui nous attend sur nos deux prochains jours, là.
Nos deux prochains joueurs, la Ligue des Champions.
La Ligue des Champions.
Évidemment, bah ce soir, évidemment, on en parlera dans cette émission, dans les actus internationales, bah l'occasion parfaite pour moi, pour vous présenter donc le sommaire de cette émission. On va parler donc sport local avec un gros point sur le SCO qui a perdu ce week-end et qui perd beaucoup de points dans cette lutte pour la montée en Ligue 1. On parlera un petit peu également du SCO Handball, on fera un point sur la situation. Et puis Faustin, tu nous parleras de basket avec les différents résultats de nos clubs du Maine-et-Loire, avec donc la fin de saison pour une des équipes. Je ne dis pas qui, mais évidemment tout le monde sait. On parlera également des Loups d'Angers, puisqu'ils ont eux aussi terminé leur saison donc ce week-end. Ils ont joué pas moins de 4 matchs en une semaine. Et voilà, ils ont quand même réussi à accrocher leur maintien. On fera un point sur cette saison et cette fin de saison surtout, qui a été palpitante jusqu'au bout. Et puis niveau international, on l'a dit, on fera un point sur les demi-finales des champions. Un peu, encore une fois, on va se mouiller au jeu des pronostics. Et puis on parlera un petit peu de tennis avec le retour de Nadal sur la terre battue madrilène. Faustin, tu nous feras un gros point sur les playoffs qui ont débuté. Donc il y a pas si, il y a un petit moment maintenant.
Déjà des ouais. sites.
Oui, c'est vrai, parce que la dernière fois, je t'avais un peu squeezé ta partie internationale sur le basket. Pardon, encore une fois. Mais voilà, on est déjà proche de la fin de ce premier tour.
Exactement.
Et tu nous feras un point sur les qualifiés, notamment. Je vous parlerai un peu de handball. Et puis, en fin d'émission, si on a le temps, on fera aussi un petit journal des jeux. On va mettre en place ça. On va essayer de faire monter la température jusqu'au 26 juillet prochain, date donc de la cérémonie d'ouverture donc à Paris. Et on parlera donc un peu des dernières actualités autour des Jeux Olympiques.
Tu crois que la température, ça suffira pour rendre la scène utilisable ?
Non. Non, non, mais ça c'est pas mon dossier, c'est pas moi qui gère, donc voilà. Nous, on se contente de parler un peu de l'organisation et surtout de sports. On va commencer donc sans plus tarder avec le SCO à l'occasion du multiplex de mardi dernier. Les Angevins sont parvenus à garder le rythme en s'imposant donc sur la pelouse de Guingamp 2-1 malgré un but de l'ancien du SCO Baptiste Guillaume. Les hommes d'Alexandre Dujeu ont réussi à prendre les 3 points grâce à leur buteur providentiel Loïs Diony qui aligne désormais 14 buts au compteur. Alors que le SCO restait donc sur 5 matchs sans défaite, le club de l'Anjou s'est incliné samedi soir sur la pelouse du Paris FC 3-1. Alors qu'il maîtrise mal sa sortie sur le premier but parisien, Yaya Fofana est trompé par la trajectoire d'un centre dévié par son défenseur Yann Valéry sur le second but. Le SCO était pourtant revenu juste avant la pause grâce à la belle reprise de volée de Pierrick Capel, oublié dans la surface du PFC. Ilan Kebal était venu d'ailleurs aussi aggraver la marque suite à une perte de balle du jeune entrant Yacine Belkdim devant sa surface. Les erreurs défensives rattrapent encore une fois les ambitions du club. Voilà quelque chose qui était assez récurrent l'année dernière en Ligue 1, alors que Saint-Etienne et Auxerre, eux, ne réalisent que très peu de faux pas lors de ce sprint final. Et au vu des différentes dynamiques, Angers se dirige doucement, mais sûrement vers les playoffs de Ligue 2 en position de troisième. Voilà. D'ailleurs, cette place en playoff est quasiment assurée. Voilà. Le SCO, a priori, ne descendra pas en dessous de la cinquième place. Angers qui se dirige, voilà, vers ses playoffs. Et pour rappel, donc, si le SCO, conserve cette troisième place, il affrontera le vainqueur, du match entre le 4e et le 5e de Ligue 2, avant de potentiellement défier le barragiste qui sera lui 16e de Ligue 1. Donc ça pourrait être soit Lorient, soit Metz, soit Le Havre, soit d'autres équipes en fonction de potentiels rebondissements. Mais a priori, ça se jouera entre ces trois équipes-là. Messieurs, justement sur le SCO, est-ce que justement on a dit un petit peu adieu ce week-end à ces deux premières places du classement ?
Vu l'écart, je dirais que non, c'est encore jouable mathématiquement, mais quand tu perds sur ce type de match où ça pouvait t'assurer quand même un peu plus de tenue pour la deuxième place, là je trouve qu'il y a eu faute professionnelle un petit peu ce week-end, quoi. Par rapport aux résultats, voilà. Bon, une défaite, ça peut arriver, hélas, mais sur ce match-là, c'était... La victoire à plus de 3 points, en fait.
Hein, surtout le PFC est une équipe qui va jouer justement.
C'est ça, oui, oui. Il y en a, ils sont remontés, je crois.
Ouais, je crois
d'une place au classement, c'est ça?
Ils sont cinquième de mémoire. Donc, ils sont dans les places. D'ailleurs, c'est du coup potentiel adversaire.
Hein, c'est pour ça, oui, en plus.
Pour les playoffs. C'est ça, le PFC qui est actuellement cinquième derrière Rodez. Mais voilà, le SCO possède toujours 6 points d'avance sur du coup le Paris FC et 9 sur Laval, en sachant qu'il reste 3 journées. Donc voilà, le SCO aura quelque chose à jouer à la fin de ces 38 journées.
Après, on est un peu sur cette dynamique négative, c'est de se prendre un but quasiment d'entrée de match à chaque fois.
Enfin, ouais,
c'est...
Et puis surtout, pas
ça
mal
s'enchaîne
d'erreurs
dessus aussi.
Sur
ouais,
les 3 buts, quasiment, il y a quasiment 3 erreurs, puisqu'il y a donc une mauvaise sortie de Yaya Fofana sur le premier but. Le deuxième, c'est un contre son camp de Yann Valéry. Et puis à la fin, c'est une perte de balle à l'entrée de surface. Mathéo, t'en penses quoi ?
Moi, je sais pas si on peut dire que Angers est enterré à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Encore une fois, le SCO est toujours dans la course. Maintenant, comme tu l'as dit, les deux équipes du dessus font des dynamiques bien meilleures. D'ailleurs, si Auxerre, à la prochaine rencontre, fait un meilleur résultat que le SCO, ils seront assurément de la montée en Ligue 1. Donc voilà, mais oui, ça confirme à peu près moi ce que j'avais dit il y a deux semaines. Moi, je suis persuadé que cette équipe du SCO n'a pas forcément les cartes pour jouer la Ligue 1 l'année prochaine. Quand on voit les erreurs défensives en Ligue 1, normalement, ça ne pardonne pas. Et puis là, on l'a vu. Le problème aussi, c'est le niveau offensif de l'équipe. Là, sur le match, le but gâche, cache un petit peu, pardon, le désastre offensif de la rencontre. On n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Donc ça, ça fait partie aussi des choses qui pourraient être inquiétantes s'il y a une montée l'année prochaine. Moi, mon avis, c'est que je préférerais voir sans doute le score rester en Ligue 2 au moins une saison de plus, le temps de se reconstruire, d'acheter plus de joueurs et d'être meilleur, de laisser aussi certains joueurs éclore. On peut penser à Kalumba, à Le Paul aussi qui fait une demi-saison hyper intéressante.
Raoul Izoa
aussi, oui, c'est vrai.
Donc, cool, notamment.
Voilà, parce qu'on a quand même un centre de formation intéressant, ouais, donc jouer là-dessus. Mais j'ai du mal à voir cette équipe monter, quand même.
Faustin, t'en penses quoi ?
J'ai surtout du mal à les voir dans les deux premières places, là, au vu des dynamiques, surtout.
Pour rappel, donc, il n'y a que deux points de retard sur Saint-Etienne qui, perd très peu.
Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que jusqu'à la fin de la saison, Saint-Etienne ne perdra plus. Et avec la défaite contre le PFC, la deuxième place est impossible à toucher. Ça fait un certain temps que Auxerre semblait aussi difficilement atteignable. Et là-bas, c'est clair que ce serait impossible de rattraper. Mais après, les playoffs sont, tu l'as dit, sûrement assurés. Mais ça va être très compliqué d'aller jouer une équipe de Ligue 1 pour la montée aussi.
Ouais, c'est plus ça qui m'inquiète. D'ailleurs, je crois que c'est un peu ce que j'avais pronostiqué il y a quelques semaines. C'est que je voyais le SCO jouer les playoffs et perdre soit contre une équipe de Ligue 2, soit directement en Ligue 1. Mais c'est vrai, comme tu disais un peu, Mathéo, c'est vrai que le SCO est quand même un surprenant troisième. C'est-à-dire qu'on voyait pas le SCO jouer la montée à ce point, et on rappelle qu'on est champion d'hiver ou champion d'automne, je sais plus ce qu'on dit, mais c'est vrai que ça, c'est surprenant. C'était surprenant de voir au départ de la saison le SCO aussi haut, et puis c'est vrai que l'effectif, il est un peu, je trouve, bricolé. Il y a des joueurs qui reviennent de loin, il y a des jeunes joueurs, il y a des joueurs qui étaient encore là, qui sont traumatisés de l'année dernière. Donc voilà, et c'est vrai, comme tu sais, il y a un manque de qualité parfois sur certains postes.
Au final, on peut pas dire que c'est la canne, en fait. Parce qu'on aurait pu avoir un doute par rapport à cette période-là où on a eu quand même pas mal d'absents. Alors,
pour préciser, donc on a perdu quand même notre gardien titulaire.
Oui.
Et Melvin Zingan, qui donc son numéro 2, n'a réalisé aucun clean sheet.
Mais je pense qu'au final, toi, le problème était déjà là en termes de...
Oui, bien sûr.
De défense, et en fait cette période-là, c'est pas vraiment celle qui sera la plus révélatrice, je pense, du niveau, enfin de la faiblesse de l'équipe. Ouais. Là, c'est vraiment ces derniers matchs où là où t'es censé le mettre à 300%, et là,
ouais,
l'impression que ça y est plus, quoi.
Ouais. Le problème, c'est aussi les cadres de l'équipe. On voit qu'il y a des cadres qui commençaient à sombrer l'année dernière. Je pense à Yann Valéry, ouais, qui a fait un match horrible contre le Paris FC, ouais, assurément le joueur le plus nul du match, si je peux dire. Et puis il y a certains cadres qui prennent leurs responsabilités. On peut penser à Loïs Diony, mais j'ai du mal à voir Loïs Diony reperformer en Ligue 1 s'il y a monté.
Ouais,
donc voilà. Et puis la profondeur de banc, quand même, faudrait voir les statistiques sur l'apport des joueurs qui rentrent, mais à mon avis ça
la perte de Baoya là-dessus a fait mal, parce que Baoya rentrait et marquait beaucoup, il était à 5 buts à chaque fois en super sub. Et là, c'est vrai que
Kokosi, il y a Le Paul qui est souvent sur le banc, qui fait des bonnes entrées. Donc
ouais, mais d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il rentre pas plus tôt. Mais bon, c'est comme ça. Et il y a la blessure aussi de Ferrat qui, je pense, fait un peu de mal au niveau offensif.
Ouais,
même si c'est peut-être pas forcément, ne serait-ce que le meilleur Algérien de l'attaque angevine. Donc voilà, on verra si le SCO est capable d'aller chercher, pourquoi pas, Saint-Etienne, même si au niveau des matchs qui restent, il y a un match à Pau, pareil, Pau qui est plutôt bien placé quand même. Et puis après, ce seront deux équipes qui jouent plutôt le maintien, avec Annecy et Dunkerque. Dunkerque qui, on le rappelle, fait une très bonne année 2024. Donc voilà, à suivre pour le SCO. Il reste trois matchs, et donc le prochain, c'est à domicile. Si jamais, cher auditeur, vous voulez supporter le SCO, c'est vendredi et non pas samedi. Donc voilà, face à Pau, à Raymond Coppa. On va parler maintenant d'un autre SCO, le SCO Handball, qui est lui désormais assuré d'être relégable après la victoire de Massy sur Caen la semaine dernière. Et malgré cette situation sportive désastreuse, Christophe Maniable, le président du SCO Handball, se voulait plutôt rassurant dans les colonnes de Ouest France il y a quelques semaines quant au maintien administratif du club en Pro League. Pour revenir sur le terrain et le sportif, c'était l'avant-dernier match de la saison à la salle du Hara pour le SCO Handball. Donc c'était vendredi, les Angevins avaient l'occasion quand même de sauver l'honneur, alors que Issam Tej avait pris la décision de ne faire jouer que selon ses dires des joueurs motivés, avec notamment pas mal de jeunes qui étaient sur la feuille de match. Face à Massy, donc les SCOistes ont bien débuté la rencontre au point de mener de 5 points à la mi-temps, mais pendant la seconde période, les Noirs et Blancs vont voir les Franciliens revenir progressivement en score jusqu'à cette dernière minute de jeu et le but au buzzer de Thibaut Chevalier qui donna la victoire à Massy. Voilà le SCO qui va en tout cas connaître cette avant-dernière place de Pro League et une position de relégable sportif. On verra si la bonne santé financière du club peut permettre de le voir rester en deuxième division l'année prochaine. Faustin, on va passer au basket maintenant avec nos trois équipes du 49. Ouais. Et on va commencer peut-être par l'équipe qui a déjà fini sa saison.
Ouais, on va commencer par l'UFAB qui ont donc fini leur saison après avoir perdu lors du premier tour des playoffs de Ligue féminine. C'était face à Villeneuve d'Ascq. On ne pouvait pas s'attendre à grand-chose de la part des Angevines car elles affrontaient les premières du championnat, vice-championne d'Europe en titre. Une saison qui ressemble, j'ai envie de dire, un peu aux autres, avec des performances moyennes en Ligue féminine, toujours un maintien en play-off qui se joue dans les dernières minutes et après pas de performance en play-off. On peut cependant noter les très bons développements de Leila Lacan qui a été donc draftée en WNBA, ainsi que Marine Dursus qui était arrivée de centre de formation cette saison, qui a réussi à prendre une place de plus en plus importante au fur et à mesure de la saison. Donc ça reste, je me dis, une saison positive de la part de l'UFAB.
Correct.
Voilà, ça correcte dans la lignée de ce qui se développe depuis certaines années.
Des objectifs qui sont réussis pour l'UFAB. On va enchaîner avec le AB qui, ouais, là c'est un sprint, c'est assez fou d'ailleurs la course pour le maintien en Pro B.
Bah ouais, c'est clair, alors qu'on les enterrait il y a de ça 2 semaines, ils ont finalement gagné la semaine dernière face à Orléans, ce qui leur permettait de passer à la 16e place significative de maintien. Ils ont ensuite perdu lourdement à Reims 96-65, mais ils restent quand même 16e, mais à égalité avec les 17e et 18e du championnat. Ils jouent vendredi face à Antibes, ce sera le dernier match à domicile de la saison et ce sera à coup sûr un match crucial. Il faut donc venir à Jean-Bouin encourager l'EAB. Et le deuxième match aura lieu à Fos-sur-Mer, actuel 17e du classement.
C'est une finale quasiment.
C'est exactement ça. C'est un match qui sera sûrement le match le plus intéressant, le plus important, pardon, de la saison du côté de l'EAB qui déterminera le maintien,
bien sûr,
ou non de l'équipe.
Donc voilà, on a trois équipes pour 2 places, en tout cas pour une qui permet de se maintenir.
Exactement.
Et voilà, des équipes qui sont à égalité. Je sais pas trop, il y a une espèce de différence de points,
ouais,
qui fait
ça,
que le AB est 16e.
C'est ça, c'est exactement ça.
Donc c'est une situation qui est susceptible de bouger.
Ouais.
Et dans tous les cas, il y aura au moins une des trois équipes qui aura une victoire, puisque donc comme tu le dis, Angers et Fos-sur-Mer se jouent. Très bien. On va terminer avec
avoir les finances du club, par contre.
Oui, pourquoi?
Bah, c'est comme, tant mieux s'ils arrivent à se maintenir, sur le terrain. Mais moi, j'ai peur quand même relégation administrative.
Ah bon? T'as des échos? T'as vu des rumeurs? Je sais pas.
Ça pue quand même cette année niveau thune. Hein, ils ont été en galère. Hein.
Ça, ah ouais.
Le budget apparemment était pas terrible. Hein, ils sont passés, ils pas loin. Donc,
j'ai pas eu d'infos autour de ça.
Il y avait eu. Et tu le sens, hein, déjà. On n'a pas eu trop le temps d'en reparler, mais le choix de l'entraîneur, finalement, un choix audacieux, je trouve, d'aller chercher quand même sur un club de la région. Mais derrière, si t'arrives pas à trouver un entraîneur pour faire une.
Frédéric Cosset. Il est adjoint.
Ouais.
Il est assistant.
Il a été pris qu'en assistant ?
Ouais, en assistant. Assistant.
D'accord, parce que moi j'ai compris qu'il était
Non, non, il est coach. Il assistant. Non, non, on avait parlé il y a deux semaines.
Ouais, ouais, quand il est arrivé justement.
La fameuse histoire, je sais pas si tu avais vu Cédric.
Ah, j'avais vu vite fait passer le truc.
Donc en gros,
la façon
que
c'était expliqué, ça faisait très coach.
Alex Bouzian qui part en pleine... Enfin, le jour d'un match, saison, ouais. Pour un concurrent, et derrière, voilà, c'est...
Oui, bah
c'est
ça, oui, oui. Voilà. Et apparemment derrière ce serait bien pour des raisons pécuniaires.
Donc oui, c'est vrai. Par contre,
il y a tout ça. Et moi, pour moi, le club, il a pas une santé financière qui doit être si terrible que ça.
Bon, on verra ça. On est de tout cœur avec le AB hein, pour ce maintien sportif. Cholet.
Ouais, Cholet qui va assez mal en cette fin de saison et qu'ils ont enchaîné leur 4e défaite d'affilée. Cette fois, c'était face à Paris Basket en prolongation sur le score de 92 à 90. Une défaite assez dure à encaisser, ce qui emmène les Choletais à la 8e place du classement de Pro A, de Betclic Elite. Et se rapproche donc dangereusement de ne pas être qualifié pour les playoffs, parce que la 8e place est la dernière place qualificative pour les playoffs. Il ne reste que 3 matchs à jouer, dont un contre Monaco. Il joue en ce moment contre Dijon. Il y a 21 à 27 pour Dijon à 8 minutes 15 de la fin du deuxième quart-temps.
C'est fou comme Cholet, j'ai l'impression que chaque année c'est l'ascenseur. C'est fou.
Ça se ressemble.
Les années dernières, alors les deux dernières années, c'était donc il termine, il joue le maintien. Donc c'était 2021-2022. Il joue le maintien toute la saison pour à la fin faire une grosse série et il joue les playoffs. L'année dernière, c'est l'inverse, je crois, où en gros, ils sont très forts au début, et puis finalement...
Et puis, ils font finale d'Eurocup aussi.
Oui, c'est ça. Et puis au final, ils perdent la finale, et en plus,
ils dégringolent
en play-off. Et là, on va dire que c'est des dents de scie toute la saison,
ouais,
on est d'accord.
C'est carrément
un
ça.
Un coup, ils enchaînent plein de victoires, un coup, ils enchaînent plein de défaites.
Ouais, c'est
là, dans un creux de la saison de Cholet. Bon, on espère quand même qu'ils vont réussir à s'imposer. Ouais. Tu nous tiendras au courant évidemment de l'évolution du match.
Exactement.
Et puis j'aimerais terminer cette page basket en parlant d'un club qu'on évoquait il y a encore, au tout début de l'émission, il y a 6 ans. Je me souviens très bien puisque on parlait justement à l'époque de l'EAB lorsqu'il jouait en N1. Et à l'époque, dans cette même poule de N1 de l'EAB, il y avait un autre club du Maine-et-Loire, c'était Brissac. Et juste la veille. Ou même le jour même du derby entre Brissac et l'EAB, Brissac avait malheureusement déposé le bilan et avait dû quitter la N1 et revenir en R2. Et ce week-end, et puis enfin même si ça a été officialisé donc la semaine dernière, Brissac a fait son retour en N2. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. Donc, 6 ans après le dépôt de bilan, pour avoir été donc à la salle du Marin, pour les connaisseurs, c'était une ambiance assez folle.
Ouais, j'ai vu les images.
C'est vraiment fou. J'ai même filmé. Donc, il y a un buzzer beater complètement dingue avec la salle qui explose. C'était assez exceptionnel. Donc voilà, Brissac, un gros club de basket en Maine-et-Loire. Tu me contrerais pas là-dessus,
ouais,
Faustin. Et une très belle salle aussi. Et donc voilà, qui revient un peu à sa place, j'ai envie de dire, en N2. Et on espère qu'ils vont pouvoir rester à cet échelon-là. On va terminer les actus locales. Alors peut-être si Cédric, tu nous prépares un petit point sur les derniers transferts de niveau Duc pendant que je parle des Loups.
Il n'y a pas eu de transfert, mais on peut en dire deux,
les
trois.
Départs,
je crois, sur les départs.
Il y a eu 2-3 départs, justement.
Une prolongation.
Plus des départs. Tu nous prépares ça pendant que je vous parle des Loups d'Angers, les pongistes angevins qui, donc comme je le disais en introduction d'émission, ont disputé quand même 4 rencontres en une semaine, un vrai, pour le coup, sprint final. C'était d'ailleurs les 4 dernières de la saison régulière. Alors ça a commencé donc le dimanche 21 par une défaite 3-1 contre Nîmes-Montpellier, dans une équipe dans laquelle on retrouve notamment les frères Lebrun. Ensuite, ils ont enchaîné avec une victoire 3-1 le mardi contre Rouen. Et une victoire surtout très importante, 3-0 le vendredi contre Sergi Pontoise. Sergi Pontoise qui était d'ailleurs déjà sacré champion de France 2 jours plus tôt. Et c'est sur ce match que les Angevins vont acquérir leur maintien en Pro A. Eux qui avaient l'habitude quand même de bien performé sur la dernière saison. On rappelle champion en titre champion de France en 2021, en 2022 et demi-finaliste de playoffs en 2023. Et là, c'était une saison assez compliquée. Il y a une nouvelle défaite, donc 3-2 dimanche dernier contre Hennebon. Voilà, il y a eu une saison assez compliquée, l'absence du coach David Pilar pendant quelques mois, qui a été suppléé par Gautret, j'ai plus le prénom en tête, mais donc le manager du club, qui l'a suppléé pendant 3 mois. Et au niveau des performances, voilà, on va dire que le Portugais João Geraldo a tenu la barque. C'est le seul d'ailleurs en positif sur les matchs gagnés cette saison, avec 66%, deux tiers de ces matchs qui ont été gagnés par le Portugais. Contrairement à John Persson, qui était un élément fort sur les dernières années, qui lui est tombé à 38% de victoires seulement. Donc voilà pour cette saison un peu contrastée des Loups d'Angers qui ont quand même réussi à accrocher donc ce maintien, et on les verra une fois plus en proie la saison prochaine. Cédric, sur les Ducs d'Angers, qu'est-ce qu'on a comme info? Il y a eu des départs importants, je crois.
Ouais, on va parler un peu chronologiquement. Donc on avait eu une prolongation du coach adjoint. Donc déjà bon, c'est bien, on continue. Dans la foulée, par contre, on a appris une spécialité, j'ai envie de dire, des Ducs, hein. Changement d'entraîneur.
Voilà, ça on en avait parlé un peu dans l'émission.
Voilà. Donc toujours pas de nouveauté.
Donc Jonathan Paredes, hein, qui succède à John O'Leary, si je dis pas de bêtises.
Ouais. Après, donc on a eu deux départs au niveau de la défense, donc Ross et Marnivian. Va falloir reconstruire donc la ligne de défense. On a eu une arrivée, un Finlandais qui nous vient tout juste. Qui a fait 3 saisons à Grenoble. Mm-hmm. Donc ça peut être un plus, hein. Un défenseur, donc à voir s'il va s'acclimater.
Alors c'est Jere Ruijainen.
Voilà, ouais.
Désolé pour la prononciation finlandaise. Et puis surtout, j'ai envie de dire, le plus gros départ, Cédric, c'est celui du gardien.
Un petit peu surprenant, oui.
C'est Evan Colley, qui était l'un des meilleurs gardiens de la Ligue.
3 ans au club et qui part... voilà, c'est surprenant quelque part. S'il part, c'est que sûrement il a eu une très bonne proposition d'un club plus haut, je pense, dans l'élite du hockey européen ou peut-être américain, ou en tout cas ligue américaine ou canadienne. Donc à voir où il va rebondir, mais ouais, ça va faire un vide dans les cages. À voir quel profil va rechercher. À la direction et puis le coach pour ce poste-là. On a tout à voir si on va prendre une solution interne avec peut-être dans les U20 comme ils ont été champions cette année. Peut-être qu'on va jouer la carte de la jeunesse, à voir. Mais ouais, en tout cas, c'est surprenant, quoi. C'est surtout que voilà, en face, du côté de Rouen, on a quand même aussi leur gardien qui leur a rendu 1001 services aussi, qui part. Donc ça veut dire cette année le mercato des gardiens, en tout cas par rapport à la Ligue Magnus, va sûrement être très fort, hein. Ça va se battre, je pense, pour prendre des bonnes pépites et puis essayer de les garder le plus longtemps dans nos clubs, quoi. Donc je pense qu'on va avoir un match à distance entre les deux, quoi.
Ça va être intéressant suivre. Donc
c'est ça, la rivalité va continuer au-delà de la glace, quoi.
Évidemment. Mathéo.
Ouais, moi j'aurais aimé parler dernière fois d'un club local, le SCO Rugby, qui a joué ce week-end. On est sur des rencontres hyper hyper importantes, peut-être pour une montée en Fédéral 2, okay. Qui c'est donc la 4e division de rugby française. Ils jouaient contre Blois. Alors du coup, pour expliquer un petit peu le principe, là donc c'était les 32e de finale de Fédéral 3. Blois qui a fini premier de son groupe, le groupe 2, le SCO qui a fini 4e, donc c'était un ultra favori Blois dans cette confrontation. Et ça s'est soldé sur un match nul, 24-24, très combattu. Le SCO menait 24-14 à la pause. Malheureusement, la deuxième mi-temps, ils se sont un petit peu effondrés. Tout le collectif qu'on avait vu dans la rencontre est parti. Mais voilà, le SCO qui jouera donc à Blois à l'extérieur une montée, parce qu'à partir des 16e de finale, on monte en Fédéral 2. Donc jouera une montée en Fédéral 2 face à Blois.
Ça va être intéressant à suivre. C'est vrai qu'on les suit un peu, le SCO Rugby, depuis quelques années sur Génération Sport. Et c'est vrai qu'ils chassent un peu justement cette montée en Fédéral 2 depuis quelques saisons. On parlait des Ducs d'Angers. On va tout de suite passer à la pause musicale et s'écouter un autre Duc, le Duc de Boulogne. La transition est très bien faite de ma part. On va s'écouter Booba.
C'est pas la même genre de castagne.
Non, c'est pas pareil. On va s'écouter Booba SDM sur le titre Dolce Camara et on se retrouve juste après.
Pas besoin de parler, je suis grand séducteur. Le shit c'est du filtré, la coke c'est du beurre. J'arrive plus à me projeter, je vois que le MUR. Sa mère il est DUR. Je vais me poser dans le maquis.
Sale, ok.
Enterré sous terre tous mes cellulaires. Piscine à débordement.
Ok.
Pizza aux fruits de mer. J'aide les miens, ceux qui ont un crochet. Faut que mon prochain. Avant de prendre l'upercule, tout le monde a un projet. Et puis tout s'éteint. Pour combattre l'Empire, il me faut R2D2. France rime avec champ, je crois en aucun des deux. Elle veut mon WhatsApp, mon numéro de chambre. J'ai la main dans ses cheveux, je tire, elle se cambre. Je finis sur son dos, précis comme Rondo. Riche comme un bongo, bang, bang. On les aime fraîches, bien michto. Qui savent accueillir comme dem, dem. Plus on étouffe, plus c'est la ville. Plus on est de fous, plus c'est l'asile. À peine fini de forniquer, je me rhabille. Les larmes sont halal, le sourire est kabyle. Je suis de l'ancienne fédé, sans enseigne piégée. OG, BG, OG, BG. Faites entrer toutes les caméras. Je suis beau, je suis en Dolce Camara. Je suis de l'ancienne fédé, sans enseigne piégée. OG, BG, OG, BG. Faites entrer toutes les caméras. Je suis beau, je suis en Dolce Camara.
Je descends du sang, je les viscères juste en bas de la cité. Devant moi, t'es Mimi, prends ton phone, insulte-moi. La technique aronie, là, ce fort acide. Ce qu'il faut en 10 années, pas moi, ça me prend 6 mois. Cigare en chebou quand j'arrive sur scène. La saga, la cité, d'où saga en chef, ça déjà. Poto ne croit même pas qu'on chôme sa job. Y'a de la cheveux blanc, de la verté, du jaune, ça vend. Le business est carré, la bac fait des rondes. On encaisse, on rit au nez des fédéraux. La mère à Riolo, le père à Riolo. J'arrive, on a franchi BG comme Lyota. J'fais la taille d'un Yeti, l'argent du refou, business en Yota. Solo, j'paye detail, les billets en soi. En Dolce Camara, dans costume en soi. Ils nous aiment pas, mais sont obligés de faire avec. Là, ce phare des choses donne la vue aux aveugles. On est entouré de faux, le 9-2 il reste vrai. Le serveur met du DUC dans mon verre. La nouvelle gênée comme Husky et Grinzer. OG, BG, OG, BG. Faites entrer toutes les caméras. Je suis beau, j'suis en Dolce Camara.
J'suis de l'ancienne FD, sans enseigne piégée. OG, BG, OG, BG. Faites entrer toutes les caméras. Je suis beau, j'suis en Dolce Camara. J'suis de l'ancienne FD, sans enseigne piégée. OG, BG, OG,
BG. Booba et SDM sur le son 1.5 FM de Radio G. Vous êtes toujours donc dans Génération Sport, l'émission sportive du 101.5 FM. Vous nous écoutez également sur le site internet www.radio-g.fm ou alors sur les plateformes d'A+. On est toujours avec Faustin, Mathéo et Cédric pour parler de l'actualité désormais internationale avec pas mal de choses à dire. On va essayer de faire vite. Il nous reste quand même 26 minutes. On va essayer de faire vite. On va parler alors sur les résultats de la Ligue 1. Alors, c'était une journée assez prolifique. Je vais essayer de faire ça assez rapidement parce que surtout, on a pas mal de choses à dire sur ce qui se passe ce soir et demain soir. Une journée assez exceptionnelle avec beaucoup de buts. Plus de 40, je crois.
Ça a marqué sur toutes les pelouses, tous les clubs, il me semble, ont marqué.
Tous les clubs, c'est ça, c'est une première depuis longtemps, ouais.
Ouais, c'est la deuxième ou troisième fois que ça arrive dans l'histoire de la Ligue 1. Donc, un week-end, comme tu l'as dit, très prolifique.
Très prolifique. Donc, on a eu ce match nul, un partout d'abord entre Nantes et Montpellier, un partout. On a eu un très beau 3-3 entre le PSG et le Havre. Le dimanche, on a eu une pluie de buts. 2-1 pour Lille contre Metz. 2-1 pour Toulouse contre Lorient. 3-1 pour Nice à Strasbourg. Clermont, la lanterne rouge, s'est imposée 4-1 contre Reims. Match de dingue entre Brest et Rennes lors du derby breton. 5-4 pour Brest qui s'impose à la 96e grâce à Brassier. Juste après, on a eu un très beau match aussi entre Lyon et Monaco, victoire 3-2 des Lyonnais. Et puis l'OM s'est imposé 2-1 contre Lens dans cette fin de journée. C'était d'ailleurs la 31e journée. Et donc le PSG aussi, surtout, c'est l'info aussi du week-end, qui a été sacré champion de France officiellement pour la 12e fois de son histoire. Le PSG, on en parlera pour le match de demain notamment, mais ce soir, c'est le début des demi-finales aller de Ligue des Champions avec le Bayern Munich qui reçoit le Real Madrid. Ça commence à 21h, juste après l'émission. On a essayé pendant la pause de se rappeler un peu les pronostics de chacun. Avec Mathéo, on est pas mal. Cédric et Faustin, c'est un petit peu plus...
C'est tout l'inverse.
C'est tout l'inverse. Alors toi, c'est tout l'inverse. Je crois que Cédric, t'avais mis Paris.
J'avais mis Paris, ouais.
Mais voilà, bon, alors on va essayer de repronostiquer. Et oui, pour ces demi-finales. Voilà, on va vous donner peut-être les compos pour le match de ce soir entre le Bayern et le Real. Deux Français seront sur la pelouse au coup d'envoi. C'est Tchouaméni qui va être titularisé au milieu de terrain et Ferland Mendy en latéral gauche. Pour poursuivre avec donc la compo du Real, on aura Lounine dans les buts. On aura également Nacho et Rudiger en charnière centrale, Vasquez à droite. Tchouaméni donc sera accompagné de Kroos et de Valverde et un trio classique: Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Pour le Bayern, donc les deux Français Upamecano et Matistel sont sur le banc et on va commencer donc avec Neuer dans les buts, Kim Min-jae d'ailleurs et Mazraoui en défense, un milieu de terrain composé de Laimer, Goretzka et Thomas Müller en numéro 10. Et puis sur l'attaque, on aura Leroy Sané, Jamal Musiala et Harry Kane. Voilà pour les compos de ce soir, messieurs. Encore une fois, je vais vous demander sur la confrontation donc des deux matchs, la qualification. Qui voyez-vous l'emporter entre le Bayern et le Real Madrid? Qui veut commencer? Mathéo, tiens.
Moi j'ai du mal à voir le Real Madrid ne pas passer dans cette double confrontation. C'est vrai que c'est deux dynamiques bien opposées quand même. Le Bayern qui est assuré donc avec la victoire, le match nul le week-end dernier du Bayer Leverkusen, de ne pas gagner la Bundesliga pour la 12e année. Ça faisait 12 ans qu'il gagnait maintenant. Peut-être une saison blanche pour le Bayern, ça serait assez étonnant, mais en même temps, il leur reste que la Ligue des Champions à jouer sur le papier, et face au Real Madrid, c'est peut-être la meilleure équipe de la compétition, une équipe en forme. Qui a, je crois, 12 ou 13 points d'avance sur Girona au championnat, donc forcément ils arrivent avec une forme et puis une fraîcheur aussi sans doute qu'ils vont faire tourner. Moi, mon pronostic sur la double confrontation, ce serait logiquement le Real Madrid, surtout que le Real Madrid a des qualités là où le Bayern a des défauts, donc ça peut être assez incisif. Maintenant, j'espère que la double confrontation ne se jouera pas que ce soir, ce serait dommage. Et je pense que ça sera pas le cas parce que c'est à Munich, et à Munich le Bayern est toujours bon.
Oui. Faustin.
Ouais, moi je suis un peu d'accord, je vois pas le Real laisser passer le Bayern, quoi, parce que le Bayern, c'est pas leur meilleure saison, mine de rien. En Ligue des Champions, ils se débrouillent bien, mais en Bundesliga, c'est vachement compliqué. Contrairement à l'arrivée de Harry Kane, qui est juste monstrueux, mine de rien, mais il gagne pas avec son équipe. Donc c'est dommage, il met des buts, mais ça suffit pas. Et du coup, je vois bien le Real passer sans trop de problèmes, en gagnant les deux matchs.
Très bien. Cédric.
Non, écoute, moi j'espère surtout c'est que les deux matchs vont être joués, parce que... Match retour là du Real, il était pas forcément folichon, j'ai trouvé.
À City.
Ouais, à City, ouais, j'ai trouvé que, enfin.
Ça a mis le bus.
Ouais, sans voilà. Enfin, encore, c'est pire qu'un bus, hein. C'était une muraille, quoi. Un bus, t'arrives à le déplacer, mais non, en tout cas, ouais, j'espère au moins que ça va jouer correctement. J'ai envie de dire que le Bayern n'a plus rien vraiment à jouer hormis ça. Est-ce qu'ils vont pas tout donner justement et qu'ils vont être infernal? C'est plus le grand Bayern, mais je vois bien déjà le premier match finir sur un match nul et après, à voir, par rapport à la physionomie du premier match, quoi.
Ok, donc tu te prononces pas trop.
Ouais, non, j'aurais du mal.
Je suis un peu partagé aussi. J'aurais tendance quand même à dire Real, mais attention au Bayern. On sous-estime peut-être un peu trop, surtout que justement comme on disait, ils n'ont plus rien à jouer, et en plus Thomas Tuchel est un peu, l'a déjà fait avec Chelsea, d'avoir rien à jouer ailleurs qu'en Ligue des Champions et de gagner la Ligue des Champions. Donc, et puis surtout, ils ont quand même des joueurs de qualité. Donc, en vrai, sur les trois matchs qui restent, si on compte la finale, ils peuvent aller au bout. Donc, je veux dire Real, mais Astérix en disant attention quand même au Bayern, qui peut un peu surprendre tout le monde. Voilà, on va parler d'une autre équipe allemande et surtout d'une équipe française pour le match de demain entre le PSG et Dortmund, un match très très attendu pour et puis une confrontation qui peut guider les Parisiens en finale. Pareil, messieurs, le PSG avec cet adversaire peut-être un peu plus faible, sûrement le plus faible du dernier carré. Est-ce que le PSG peut être favori de la victoire de la compétition en général? Déjà sur la double confrontation, est-ce que tout le monde voit le PSG ou il y a des doutes encore autour de la table?
S'ils restent dans la forme dans laquelle ils le sont, ou en tout cas dans laquelle ils le sont en Ligue des Champions, je les vois pas perdre un match contre Dortmund. Hein.
Dortmund qui a pris 4-1 notamment ce week-end.
Ouais, en plus, donc Dortmund qui pareil fait pas une super saison en Bundesliga. Ils arrivent à s'en sortir comme un peu le Bayern en Ligue des Champions, mais c'est tout. Et alors que le PSG s'en sort partout, le match retour contre le Barça était vraiment convaincant, j'ai trouvé. Et s'il le réitère, ce sera sans souci pour eux.
Mathéo,
je pense que oui, comme tout le monde ici, je vais voir le PSG vainqueur. Maintenant, ça va pas être aussi facile qu'on le pense, je pense. 2024, c'est une année qui est quand même excellente du côté de Dortmund. Au minima, on a fait un recrutement vraiment intéressant. On a recruté notamment Sancho, qui est vraiment excellent sur les derniers matchs, et puis Madsen aussi à gauche, le piston gauche que moi j'aime beaucoup, qui apporte là aussi une qualité de projection qui fait un petit peu office de grande qualité à Dortmund, avec notamment des Yemi.
Il avait marqué notamment Madsen au retour contre l'Atlético.
C'est ça exactement. Donc un joueur que moi je suis depuis longtemps et qui est vraiment en train d'éclore. Donc c'est hyper intéressant. Maintenant ça a nuancé avec le problème collectif qu'a cette équipe, notamment en défense centrale. Hummels il fait une énorme saison, mais on l'a vu face à l'Atlético, il y a énormément d'erreurs collectives avec Schlotterberg qui se comprennent pas. Donc c'est assez compliqué. Et le truc c'est que le PSG va vite, très très vite devant. On l'a vu contre le Barça, hein, ça allait très très rapidement. Barcola, Dembélé et Kylian Mbappé, c'est trois joueurs qui vont très très vite, qui combinent bien ensemble, qui arrivent à se comprendre. Je pense que le PSG a trouvé sa formule à ce niveau-là, du moins pour cette saison. Donc sur la double confrontation, je vois le PSG passer. Maintenant, demain à Dortmund, on sait que c'est l'un des stades sans doute les plus durs à jouer d'Europe. Moi, je dirais que demain, un match nul peut être à prévoir, honnêtement.
Okay. Cédric, on rappelle que le PSG et Dortmund se sont joués.
C'est ce que j'allais dire.
C'était le groupe de la mort.
Une victoire à Paris.
Une victoire de Dortmund à Paris et une victoire de Paris à Dortmund, il me semble.
Non, c'était match nul à Dortmund, il me semble.
Je sais plus, non. Attends, bon, je vais regarder ça. Vas-y.
Mais en tout cas,
donne-nous ton pronostic déjà.
Bah, forcément, je vais aller vers Paris. Hein, surtout à ce niveau-là, on va quand même continuer de soutenir les équipes françaises. Mais après, j'espère une chose, c'est que, par exemple, Mbappé fasse vraiment deux gros matchs. Ouais, et pas important. Comme avec le premier match contre le Barça, où il était quand même, je vais être gentil quand je dis ça, en dessous, voire absent même, je dirais presque. Barcola, effectivement, là, depuis ces deux matchs-là, on voit que de toute façon, pour moi, son type de match, il est titulaire indiscutable. En tout cas, il apporte de la fraîcheur, tout ça, donc... ça peut être un plus. Je suis pas sûr qu'il avait joué
à l'aller. Il avait pas joué
à l'aller. Voilà,
c'était Asensio.
C'est ça. Donc,
enfin, il était rentré en cours.
Ouais, mais en tout cas, le côté de la diminuteur de défense, s'il continue comme ça, ça peut vraiment apporter des choses. Et je pense que en plus, premier match à l'extérieur, si t'arrives à performer comme il l'a fait au retour au Barça. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher une victoire avec un bon 2-0, quoi. En tout cas, de toute façon, il va falloir chercher deux buts d'écart dans tous les cas pour se mettre en sécurité pour le match retour. S'il y a 1-1 ou 1-0, je pense que ce sera quand même plus compliqué. Il va falloir, dans ce cas-là, bétonner au match retour. Et j'ai quand même du mal à voir Paris bétonner son jeu, faire une défense. Et après, le gros point... moi quand même là-dessus, c'est toujours son gardien. Ça s'est amélioré en attaque au match retour au Real, mais moi je trouve qu'il est quand même encore juste hein, pour tenir les
Donnarumma
ouais pour tenir les
au Barça,
buts
tu veux dire,
oui au Barça ouais
au Real
ah ouais, au Barça ouais je suis déjà dans la finale mais non ouais j'espère qu'il va être plus sûr sur ses sorties enfin sur je trouve que c'est vraiment là son gros point noir depuis des années. J'ai l'impression qu'il progresse pas quoi.
Donc on verra ça. Pour rappel donc en fait le PSG s'était imposé au Parc des Princes pour la première journée et pour la dernière journée il y a eu un partout.
Ouais.
Mais je crois que si le PSG perdait ils étaient d'ailleurs éliminés. C'est pour ça que il y a eu le sentiment un peu de victoire après ce match du PSG. Que rajouter de plus? Bah, écoutez, moi aussi, je vais voir le Paris Saint-Germain gagner, je pense. A priori, même si Dortmund peut faire un bon coup, c'est quand même assez dur pour eux en ce moment. Donc, voilà, surtout le PSG est quand même de plus en plus bien rodé. Donc, avec un bon Mbappé, il n'y a pas de souci. Et avec un bon Lucien Riquet en général, il n'y aura pas de souci. On va enchaîner, messieurs, avec les autres sports. On va continuer avec le tennis. Rapidement, vous dire que Rafael Nadal, le torero de Majorque, a fait son retour sur la terre battue, plus précisément à Madrid, où il dispute actuellement le Masters 1000. Il est en ce moment même, enfin. Très bientôt, il va jouer d'ailleurs sa place en quart de finale. Il pourrait peut-être rejoindre Daniil Medvedev s'il l'emporte. Il a très bien géré d'ailleurs ses deux trois premiers tours. Et puis donc voilà, il joue à 21h30 contre le Tchèque Lejeka avant donc de jouer potentiellement Daniil Medvedev. Et puis une information tennistique avec la retraite annoncée par Alizé Cornet après le prochain Roland Garros, voilà celle qui a longtemps porté les couleurs de la France dans le classement WTA, qui va donc tirer sa révérence après la quinzaine Porte d'Auteuil.
Donc elle fera pas les JO.
Elle ne fera a priori pas les Jeux Olympiques. De toute façon, je pense qu'elle n'était pas forcément en lice dans les favoris pour y participer, puisqu'on rappelle c'est les deux premiers au classement ATP.
Ouais, c'est sur le classement, ouais.
C'est ça qui vont peut-être.
Oui, c'est vrai que c'est très peu de place au final, oui, pour le tournoi olympique.
Si on a le temps, on reparlera un petit peu de tennis également sur la fin d'émission. Faustin, c'est à toi pour les playoffs. On t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous tout, j'ai envie de te dire. Il s'est passé plein de choses.
Oui, parce que le premier tour des playoffs est déjà bien entamé. Certaines équipes sont déjà en vacances, notamment les Lakers qui se sont fait sortir 4-1 par les Nuggets. C'est la stat effrayante de cette série. C'est que les Lakers ont mené pendant 136 minutes et 31 secondes contre seulement 41 minutes et 53 secondes pour Denver. Et cependant, les Lakers n'ont gagné qu'un seul match, notamment en prenant deux game winners, un buzzer beater pour le match 3, il me semble, et un game winner, un panier à 3,5 secondes de la fin hier soir pour les éliminer. LeBron James est donc éliminé des playoffs 2024. La deuxième équipe à être éliminée, c'est les Suns, qui se sont fait sweep 4-0 par les Wolves, mené par un Anthony Edwards stratosphérique, qui n'a pas hésité à trash talk Kevin Durant, qui lui aussi est donc éliminé des playoffs 2024. C'est une première depuis 2006 que ni Stephen Curry, ni LeBron James, ni Kevin Durant ne se qualifient pour le deuxième tour des playoffs. Ça marque sûrement la fin d'une ère en NBA, avec l'apparition de jeunes comme Anthony Edwards notamment. La dernière équipe à cette fête éliminée, c'est les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, qui n'ont rien pu faire face à l'équipe numéro 1 à l'ouest, le Thunder de Casey. Ce fut un sweep clair et net. Donc les trois premières équipes à l'ouest ont fini leur série, à savoir Minnesota, Denver et OKC. C'est là qu'on voit des vrais leaders, des vraies équipes en forme et prêtes à assumer leur statut. La dernière série qui manque à l'Ouest, dont je n'ai pas encore parlé, oppose Dallas aux Clippers de Los Angeles. Et celle-ci est très serrée, il y a actuellement 2-2. Et c'est impossible de désigner actuellement un vainqueur. Je reste quand même sur ma faim vis-à-vis de la performance de Luka Doncic, que je vois quand même finir MVP de la saison régulière. Heureusement que Kyrie Irving est là parce que il fait extrêmement bien à Dallas, notamment au dernier match qui a été certes perdu, mais les Mavs perdaient de 34 points et ont réussi à revenir, à passer devant même dans la fin du match, grâce notamment à Kyrie Irving, une action qui a fait pas mal de bruit sur les réseaux, où il saute au milieu de trois joueurs et arrive quand même à mettre son panier. Mais à la fin du match, c'est finalement les Clippers qui sont imposés. À l'Est, je vais commencer par parler de la série Celtics-Miami. Il y a actuellement 3-1 pour les Celtics et le match 5 a lieu ce soir à Boston. Je pense que ça va être la fin de cette série parce que sans Jimmy Butler, blessé depuis le début de la série pour le Heat, il partait clairement en mission impossible et personne ne pariait sur le fait qu'ils allaient gagner ne serait-ce qu'un match au TD Garden. Donc c'est déjà une belle perf pour le Heat d'être arrivé là, parce que chaque saison ils arrivent à nous surprendre, notamment l'année dernière où ils sont allés jusqu'en finale de la NBA en partant tête de série numéro 8 en éliminant les Bucks premiers. C'était assez exceptionnel. La deuxième série à l'Est oppose les Cavs au Magic. C'était une série qui semblait peu intéressante et finalement elle le devient de plus en plus, notamment grâce à l'évolution du jeu des Magics, qui sont passés de sincèrement mauvais à très bon quand ils ont commencé à jouer à domicile, ce qui leur a permis de remonter à 2-2 dans cette série. Et s'ils continuent comme ça, je pense qu'ils vont carrément pouvoir sortir vainqueurs et battre les Cavs, que j'avais pourtant mis favori au début des playoffs dans cette série en tout cas. Ensuite, la confrontation qui m'étonne le plus, c'est clairement Bucks Pacers, car malgré l'absence de Giannis Antetokounmpo, je ne pensais vraiment pas que les Pacers pouvaient à ce point dominer la série avec un Pascal Siakam juste monstrueux qui profite de l'absence justement de Giannis Antetokounmpo sur son poste. Tyrese Haliburton arrive à être utile même quand il a du mal à scorer. C'est là qu'on voit aussi les champions qui arrivent à s'adapter finalement à leur performance. Ils risquent fortement d'éliminer les Bucks contre toute attente. La dernière série de ces playoffs oppose les Knicks de New York aux Sixers de Philadelphie. Et on savait que cette série allait dépendre de l'état de santé de Joel Embiid. Et malheureusement, il n'est pas à 100%. Ça ne l'empêche pas de dominer chaque rencontre, mais pas suffisamment parce que c'est un peu le seul joueur de son équipe. Les Knicks se retrouvent donc en bonne voie pour remporter cette confrontation, menant 3-1 avant le match 5 qui a lieu ce soir au Madison Square Garden.
Eh ben écoute, il y en avait des choses à dire sur ce ouais. Donc c'est assez palpitant, c'est ce que j'ai compris.
Ouais, c'est vraiment des beaux playoffs avec que des belles affiches.
Eh ben ça va continuer donc cette semaine, et puis du coup oui. t'en parleras donc la semaine prochaine, avec sûrement les demi-finales de conférence qui seront à ce moment-là connues.
Ouais.
Exactement.
Tout à fait.
On suivra ça.
On connaît déjà une en plus, du coup, ce sera oui, Minnesota contre Denver.
Et très bien, très bien. Merci à toi, Faustin, pour ce petit point NBA. Là, t'as vu, je t'ai laissé le temps, contrairement à la semaine dernière. On va donc terminer avec quelques petites informations et notamment une petite breaking news à la fin. On va parler un petit peu en balle rapidement avec le Paris Saint-Germain en balle qui connaît une fin de saison assez compliquée. Avec potentiellement 2 trophées perdus, notamment celui de la Coupe de France, c'était le samedi 20 avril, et cette défaite énorme à la Corotel Arena, 31-23 face à Nantes, une vraie claque subie à Paris, donc par le PSG face aux Nantais qui ont réalisé un très grand match pour s'imposer, donc de 8 buts face aux champions de France en titre. Et en Ligue des Champions, 5 jours plus tard, pareil, 8 points d'écart à domicile cette fois contre Barcelone en Ligue des Champions, et la route vers le Final Four qui devient de plus en plus obscure pour les Parisiens qui a priori devraient sortir, sauf exploit, donc ce sera jeudi, donc ce sera au Palau Blaugrana de Barcelone. On verra si les Parisiens peuvent revenir des 8 buts de retard. À noter que de son côté, Montpellier a fait le travail en Ligue des Champions en battant Kiel. On va terminer avec des infos concernant les Jeux Olympiques et on va vous parler un petit peu de la flamme olympique qui est partie le 16 avril dernier de Grèce, plus précisément donc à Olympie, et la première porteuse française, ça a été Laure Manaudou, et oui, celle qui avait été sacrée championne olympique
à Athènes justement. Donc voilà, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. La Flamme est désormais à bord du fameux bateau Le Belém et elle traverse actuellement la Méditerranée avant de rejoindre Marseille pour le 8 mai prochain, donc dans un peu plus d'une semaine. Et pour rappel, la Flamme qui passera donc à Angers le mardi 28 mai prochain, donc un peu juste avant l'émission. Donc on verra si on envoie quelqu'un en reporter pour nous raconter un peu tout ça. Voilà un petit peu. Je voulais vous parler rapidement du dispositif pour la cérémonie d'ouverture, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais globalement, va y avoir beaucoup de flicailles, comme on dit.
C'est le bazar, faut dire clairement.
C'est un peu le bazar, mais voilà. En tout cas, en tant qu'Angevin, on n'est pas forcément concerné par toutes ces mesures-là, mais voilà, pour les Parisiens, force à eux.
Passe est de retour.
C'est ça, le retour du passe. Et puis une dernière info, puisque Nicolas Mahut, notre tennisman angevin qui compte toujours disputer les Jeux Olympiques, notamment sur le double, il vient d'être éliminé au premier tour de Madrid. Alors il n'est pas forcément avec son partenaire de double classique Roger Vasselin, mais il va toujours essayer de se qualifier pour ces JO, même si ça devient de plus en plus compliqué. À noter donc que c'est les 10 premiers joueurs mondiaux en double au 10 juin, après le tournoi de Roland-Garros, qui seront automatiquement qualifiés pour les JO. Et après, les paires donc qui suivent seront sélectionnés selon le classement combiné des partenaires, puis piochés parmi les joueurs sélectionnés ensemble. Donc voilà un petit peu pour les qualifs de Mahut qui vont être un petit peu compliqués à faire. Et puis la breaking news, c'est que ça vient de tomber. Trois membres du SCO sont nominés pour les trophées UNFP en Ligue 2, dans les trois catégories d'ailleurs de la Ligue 2. Meilleur joueur, on retrouve donc Imad Abdelli, l'angevin qui est nominé aux côtés de Gaëtan Perrin, Gauthier Hein, Ilan Kebal et Alexandre Mendy. Côté entraîneur, on retrouve donc Alexandre Dujeu avec Olivier Dalloglio, Olivier Frappoli, Christophe Pellissier et Didier Santini. Et on retrouve également Yaya Fofana dans les nommés pour le meilleur gardien de Ligue 2 avec Gauthier Larsonneur, Donovan Léon, Brice Maubleu et Mamadou Samassa. Voilà, on vient de désinguer Yaya Fofana pour qu'il soit nommé pour le meilleur gardien de Ligue 2. Mais ah, c'est vrai qu'il a fait une bonne saison quand même. Mais
comme,
il a
comme
eu des...
quoi on est visionnaire.
Non mais il a eu quelques manquements et il a fait des très bonnes performances aussi.
Très bon début de saison avec beaucoup de clean sheets, mais depuis le retour de la CAN, ça a été compliqué.
Messieurs, on va se quitter sur ces dernières informations autour du SCO. J'ai envie de vous dire, alors, pour ma part, à dans deux semaines. Et Faustin, tu seras là dans une semaine pour animer ?
Ben normalement, il n'y aura pas de problème.
Très bien. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine émission. On va vous laisser avec la suite des programmes. Tout de suite, c'est Imaginaire sur le 101.5 FM de Radio G.
Il va falloir faire tout seul. J'ai d'abord fait la gueule, puis